Témoin est un parcours d'installation interactive créé par l'ensemble L'Écrou, un collectif lyonnais qui était invité dans le cadre du festival universitaire Arsène. Par le biais de petits dispositifs scénographiques installés dans plusieurs endroits de l'hôtel de Guine, le spectateur est libre de déambuler et peut même expérimenter certaines formes. Ces installations ont pour but d'interroger sur le besoin de parler, de communiquer ou de rompre le silence. Pour en savoir plus sur ces installations, entretien avec Pauline Picot, la marraine du festival qui est à l'origine du projet, les comédiens Sarah Christian et Bruno Campello, ainsi que Quentin Chambaud, technicien. Tous font partie de l'ensemble L'Écrou. Cette interview sera agrémentée d'extraits sonores de quelques-unes de ces installations.
Je m'appelle Sarah Christian, je suis comédienne et ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille ensemble avec L'Écrou.
Quentin, je suis technicien et je m'occupe de la création lumière et scéno.
Du coup, moi je suis Pauline Picot et je suis metteuse en scène et auteure dans la compagnie L'Écrou.
Et moi je suis Bruno Campello, je suis comédien aussi et je suis le plus récent dans L'Écrou depuis 7 mois.
Alors donc L'Écrou, donc vous venez de Lyon, vous présentez une série de parcours interactifs qui s'appelle Témoin. Qui peut m'expliquer d'où vous est venue l'idée de ce fameux parcours interactif ?
Bon, du coup, je prends le micro pour expliquer un petit peu parce que c'est donc au départ c'est mon idée. On a fait 3 spectacles déjà avec L'Écrou depuis 2013. On s'est vraiment mis en assaut en 2015. Et du coup, venait vraiment l'envie très forte pour moi d'avoir un autre rapport avec le public que celui du rapport traditionnel scène-salle, même si j'aime beaucoup ce rapport-là. Mais là, j'avais envie de partir sur autre chose. Et du coup, cette question de l'écoute, et du besoin de parler, elle est venue du fait que, par ailleurs, je fais une thèse de théâtre et que du coup, je passe beaucoup de temps seule, sans parler à personne. Et que dans ces moments-là, je réfléchis beaucoup à la solitude et aux questionnements que ça suppose et au besoin de parler. Et voilà, donc c'était un point de départ pas très intéressant, qui venait juste de mon expérience un peu au quotidien. Mais après, ensuite, très vite, c'est venu de vraiment, pour le coup, d'un peu de vision. De choses assez plastiques que j'avais vraiment très envie de voir. Et donc là, c'est là où je ne peux plus rien faire toute seule, puisque du coup, quand on est metteur en scène et qu'on a une vision, eh bien, on dit à justement un créateur scéno et lumière, je vois une cabine, mais je ne sais pas comment en faire. Et on dit justement au comédien, j'imagine ça, mais voilà, je ne sais pas, on va faire le trajet ensemble, on va voir ensemble ce que ça peut devenir. Et du coup, on a travaillé ensemble. Cette fois-ci de manière un peu plus séparée parce que c'est pas un spectacle organique mais vraiment quelque chose de très comme une constellation de choses et du coup on a un petit peu tous travaillé à différents postes mais ça circulait toujours entre nous et voilà c'est devenu témoin quoi voilà.
Tu es quand même la marraine cette année du festival, comme l'année passée, si je ne me trompe pas.
Alors, j'ai cru que j'allais avoir cette chance qu'une année, mais j'ai bien appelé Delphine Chalon et je lui ai demandé est-ce que mon mandat s'arrête ? Et elle m'a dit Pauline, on est marraine à vie. Donc, voilà, je vais être marraine toute ma vie d'Arsène. Voilà.
J'ai testé, évidemment, toutes les interactions. Et puis là, je vais m'adresser d'abord à Sarah et à Bruno, puisque j'ai testé aussi votre. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça happening, mais votre forme dans la cuisine, on va dire, de l'hôtel de Guine, où vous prenez des gens un par un et vous montez une petite scène dans laquelle la personne est aussi, interactivement parlant, fait partie de la petite scénette. Alors, qui peut m'expliquer comment ça marche ?
Eh bien, cette installation, elle interroge en fait encore une fois cette question de l'écoute et d'être témoin de quelque chose. Et être témoin de quelque chose, ça peut aussi être dépositaire d'un secret ou voilà, à qui on dit un secret comme ça très rapidement où la personne l'autre personne qui est sortie de la pièce n'est pas au courant. Là, c'est ce qui s'est passé pour replacer le dispositif, on était donc tous les trois dans cette pièce, une personne est sortie et il y a quelque chose qui a été dit. Et donc voilà, ça pose aussi la question de l'écoute, comment est-ce qu'on se retrouve à un moment témoin et aussi pris à partie d'une certaine manière. Et voilà, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé déjà toutes les deux avec Pauline à partir d'autres dispositifs, de qu'est-ce que c'est de recevoir quelque chose, en fait, de recevoir une information, le temps que ça met d'avouer quelque chose. Enfin voilà, on a beaucoup travaillé autour d'improvisation, et au fur et à mesure, cette forme-là à 2 plus 1 est née.
Mais alors, comment il réagit le public, justement, quand il se trouve confronté à interagir? Est-ce qu'il participe vraiment, ou est-ce qu'il finalement se laisse guider un petit peu?
En fait, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque histoire qui est née avec chaque personne, en fait, parce que ce sont des scènes improvisées, donc ça dépend de l'histoire que nous on propose à la personne qui est avec nous, ça dépend de la réaction de la personne aussi. À partir du moment qu'elle reçoit cette information, ce secret, et comment elle va se porter avec ce secret, nous on ne peut pas répondre parce qu'on ne sait pas. On est juste réceptif à cette réaction-là. Et ça, c'est hyper agréable pour nous, en tant que comédien, en tant qu'improvisateur aussi, dans cette installation-là. Et donc, on ne peut pas dire comment, si le public se laisse guider ou pas. Il y a des gens qui se laissent guider, oui. Effectivement, et nous on est toujours là en train de proposer des choses pour pouvoir aussi avoir une relation plus proche avec le public. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus à l'aise et qui vraiment rentrent dans l'univers, dans l'intimité de ce couple, de ce colloque, de ces gens qui sont dans cette cuisine-là.
J'ai donc répondu à l'invitation des deux comédiens dans la cuisine de l'hôtel de Guine. Je n'avais aucune idée du déroulé des événements, mais je m'étais muni quand même d'un bouquet de fleurs.
C'est très gentil. Merci. Je voulais pas régaler ma vie.
Merci, Maurice.
Ah oui, là, t'as bien les mains pleines.
Ça fait trop plaisir, franchement, mais elles sont superbes. Elles sont super belles, c'est quoi ces fleurs? Alors, c'est des violettes, non?
Ben, c'est pas des violettes, parce que c'est un peu trop grand pour que ce soit des violettes.
C'est des œillets, non? Peut-être. Non,
Bougainvilliers.
Non, Bougainvilliers, non.
En tout cas, elles sont de ce matin.
Je sais pas,
en tout cas, elles sont trop belles.
Oh, elles sont super. Est-ce que tu veux boire un petit verre d'eau?
Allez.
Ouais.
Allez.
Alors.
Si tu veux t'asseoir, fais pas.
J'ai une mâche là-dedans. Ah, qu'est-ce que tu fais pour te voir? Franchement, ça fait longtemps. Hein, ça fait vraiment longtemps. Attends, je te mets un petit verre.
Qu'est-ce que tu faisais ces derniers temps, Boris?
Eh bien, ces derniers temps, j'étais un petit peu en voyage.
Ah ouais?
Ah,
c'est super! Il y a plein de gens qui partent en voyage ces derniers temps, j'ai l'impression.
J'étais en voyage, mais pour le travail.
D'accord, j'ai parti.
Je suis parti à la montagne, couvrir un festival.
C'est cool, ça.
Génial!
De théâtre aussi?
Non, musique.
Ah, des musiques, t'as changé alors? Mais est-ce que t'as pas fait, tu fais les deux, ça?
Voilà, c'est ça. Mais disons que c'était musique classique, donc j'étais pas habitué à ça. Ah, et c'était la première fois.
Oh, génial!
Du coup, c'était super intéressant parce que je découvre en même temps.
Ça fait du bien. Et t'as mis en fait la musique classique. Le festival de musique classique, bien sûr.
Oui, parce que c'était pas des classiques on va dire, c'était pas du Beethoven, c'était pas du Wagner, c'était pas du Chopin, c'était pas du Mozart.
C'était des choses plus contemporaines,
des choses
non
plus contemporaines que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert des artistes qui jouaient la musique et en même temps des compositeurs que je ne connaissais pas.
Excellent. Oh génial, ça me fait super envie, il faudrait qu'on fasse ça avec ces
camions. Oui, non, on va le faire, je peux amener. En fait, il y a pas mal de compositeurs anglais en ce moment.
Oui.
Exactement, de musique classique contemporaine qui sont juste trop forts, quoi. Ils sont juste trop forts.
Alors là, c'était plus des pays de l'Est.
Pays de l'Est. Oh, j'adore.
Voilà, c'était des Bulgares, des Serbes.
Oh, est-ce qu'il y avait du doudouk? Est-ce qu'ils jouaient un moment du doudouk?
Non, c'était pas, il n'y avait pas de doudouk.
Oh. Il faut qu'on écoute ça.
Je suis prêt, hein.
Oh, est-ce que tu voudrais bien aller chercher, tu sais, dans le... Oui.
Je vais les mettre sur la table.
Ouais. Attends, mais je crois que je les ai mis. En fait, je suis un peu désespérée. Je crois que ça va pas tenir là-dedans. Attends, regarde, François,
ah,
regarde.
Oui. C'est
vrai. Regarde, parce que il est trop fragile, en fait, là. Elle mérite au moins ça, ces fleurs. Voilà. Est-ce que tu voudrais bien aller me chercher, tu sais, mon CD? J'ai un CD en haut de musique classique, tu sais. Oh, pardon, excuse-moi. J'ai froid, je suis toute... tu sais, de musique classique de Levon Mination, tu te souviens? C'est des, mm-hmm. une musique classique de l'Est, du Caucase, je crois, avec des airs de doudouk, mais qui sont juste sublime. Sublime.
Ah bah, je vais chercher.
Alors, dans le petit meuble, en dessous, en bas, au rayon musique classique, ordre alphabétique, etc.
Excusez-moi. D'accord, je reviens.
Merci. Merci. Merci.
Et vous avez déménagé ?
Ben ouais, écoute, on a pris plus grand. En fait. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Parce que. Je peux pas m'empêcher de te dire, en fait. J'ai eu la nouvelle ce matin, je suis obligée de la partager avec quelqu'un, en fait. Je suis enceinte. Merci. Donc tu vois, on a aménagé dans plus grand et c'est tant mieux, quoi.
Et tu crois ?
Non.
Qu'est-ce que tu comptes lui dire ?
Là, bon, tu vois, il y avait le repas, je savais que tu venais ce soir. Je vais le tenir au courant, mais j'étais obligée de te dire. Et puis surtout, mais du coup, il faut... Ah, voilà. Oui, ne dis rien, je vais. C'est juste que ça va expliquer que peut-être ce soir je suis un peu. Je me sens un peu.
Tu
vois, complètement désaxé, je sais pas, enfin en tout cas déboussolé, voilà. Et j'aimerais beaucoup que tu me donnes tous ces noms en fait des musiciens classiques parce que tu sais, pour les bébés, on dit que. Quand prénatal, dans le ventre et tout ça, ils ont déjà accès à plein de sons, à plein de musique, et moi j'aimerais bien pouvoir leur faire partager ça, quoi. Et ça, c'est un CD que j'adore ce compositeur, j'adore ce CD, et j'aimerais bien qu'ils puissent l'entendre. Et oui.
J'ai vraiment trouvé ce
tout. Non.
En fait, le CD, les disques sont plus.
Quoi ?
Ils sont pas en bas.
Mais.
On va changer cette place.
Non.
J'ai rien trouvé.
Mais je comprends pas.
Peut-être qu'il est tombé.
Il peut être tombé derrière le meuble. Mon chéri. Ah ouais, regarde. Ah non, tu sais, je me retrouve complètement. Tu sais, j'ai les choses qui me submergent. Mais 10 000 fois plus que d'habitude, en fait, je me rends compte, tu vois. Une perte d'un CD. Ça peut.
On s'attache à des choses des fois et forcément quand quelque chose vient bouleverser quelque chose,
oui,
ça donne un grand bouleversement.
C'est vrai,
mais bon, ça va s'arranger. Le CD devrait être quelque part de toute façon, pas de soucis.
Toi qui le connais bien, tu penses qu'il va être heureux? Il va être heureux,
oui, je pense.
C'est rapide, je sais que c'est rapide.
Je pense, mais il faut pas tarder.
Non, mais bien sûr, là, j'ai pas pu, j'aurais dû lui en parler avant, je sais, mais tout s'est passé tellement vite.
Ah,
cette chose,
j'ai trouvé derrière le meuble.
Oui.
C'est un ange.
Oh, je suis super déçue, mon amour. J'avais envie qu'on fasse découvrir ça à Boris ce soir.
Bah, écoute, je sais pas, on télécharge, on sait pas.
On peut télécharger, peut-être. Ou non ! Peut-être qu'on pourrait... Toi, t'as pas des CD chez toi ? Les CD, est-ce que t'as des CD de la musique là ?
J'en ai pas vraiment, mais j'ai des buissons, mais ils sont à mon bureau. Il faudrait que je repasse au bureau et c'est fermé.
C'est fermé ?
Bah, oui,
mais les clés sont chez toi, non ?
Normalement, oui.
Oh ! Est-ce qu'on ferait une petite excursion ? On va chez toi ? On prend les clés ? On va chercher une petite excursion
en avant, on fait ça s'il te plaît.
Bah oui.
On y va tous les trois.
Bah oui, si tu veux.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ? T'es étrange quand même.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
On va écouter de la musique classique comme ça ensemble.
D'accord. Tous les trois ?
Oui, tous les trois.
Ah
ok. Ouais.
D'accord.
Ouais, c'est une petite excursion.
Parfait.
Ça te va ?
Non,
on va chercher les clés, on va chercher les CD, et okay. Ce soir on se fait un grand orchestre ici, quoi. De musique classique des balcons. Allongé sur des tapis. Oui.
Pardon.
On y va? Prêt?
On y va.
Allez.
Ah oui, je suis prêt.
C'est parti.
Un petit bébé.
Deux pommes.
Moi après vous.
C'est parti.
Oui.
Oui.
Je suis désolé, on t'a fait débarquer ici pour rien, pour revenir
non,
chez
non,
toi.
Mais non, mais attends, pas pour rien. Attends, la musique classique.
Ah, mais c'est vrai.
Bah oui.
On vérifie, hein.
Ça va prendre du temps. Sois pas si.
Merci d'être
avec. On y va.
Pour revenir aussi à cette installation avec les téléphones, SOS Amitié, c'est les 50 ans.
En fait, il y a donc dans l'installation, il y a bon, on devrait pas trop dire ces choses-là, mais parce que c'est sur la surprise. Mais voilà, il y a trois téléphones avec des enregistrements et un téléphone avec une personne au bout du fil vraiment. Et vraiment au bout du fil, puisqu'il s'agit d'un très long câble. Voilà, et l'idée, en fait, c'était de dire, d'aller un peu dans une sorte de parcours dans lequel il y a d'abord un premier texte où une personne qui est très, très en détresse, en souffrance, vraiment, et qui parle vraiment seule, qui déroule complètement son fil de parole, dans une situation amoureuse très dure. Puis, petit à petit, des téléphones intégrer la présence de l'autre, en fait, et vraiment intégrer la présence d'une personne qui est là pour écouter, pour répondre. Et petit à petit, ça devient le spectateur, en fait. Parce que du coup, dans le deuxième téléphone, il y a deux personnes qui parlent, donc on peut juste être témoin, écouté. Dans le troisième, c'est une personne qui parle et il y a des blancs, donc on peut s'imaginer répondre et ce qu'on répondrait. Et dans le dernier, oh, on est sollicité comme ça et on dit, bah, en fait, finalement, c'est moi qui vais parler. Et du coup, par contre, les spectateurs sont libres d'aller dans n'importe quel sens, de commencer par n'importe quel téléphone, quoi. Mais en gros, c'est ça. Et après, l'idée, c'est de... Vraiment, cette installation des téléphones, en fait, elle est un peu symbolique de tout témoin, parce que c'est juste de montrer un petit peu que quand quelqu'un est là pour écouter, ça va tout de suite mieux, quoi. En gros, c'est ça.
Il y a aussi donc une installation avec un écran de télévision qui diffuse la plainte de Nicole Brown, la femme d'O.J. Simpson, qui a été battue, évidemment, et finit par être assassinée. L'interaction passe aussi par un manque de communication, cette fois-ci, puisque elle n'a jamais plus déposé sa plainte. Comment vous est venue l'idée de cette performance, on va dire ?
En fait, là, c'est un peu toutes mes névroses et mes obsessions et tout ça qui sont en fait dans témoins, tous mes champs de questionnements et mes réflexions. Et après, par contre, que j'ai vraiment partagé avec les membres de l'équipe et que j'ai nourri grâce à eux aussi de réflexions, de discussions. Mais du coup, ça part quand même de choses un petit peu obsessionnelles pour moi. Et notamment, donc, cette affaire de Nicole Brown et O.J. Simpson. En fait, j'ai découvert assez récemment, donc il y a un an, avec le documentaire Arte, donc OG Made in America, qui donc fait, je sais plus, quatre fois deux heures, ou je me souviens plus, mais c'est un gros documentaire fleuve sur l'histoire de O.J. Simpson comme étant vraiment un symbole des contradictions de l'Amérique, qui à la fois justement est dans une ségrégation des Noirs américains et en même temps valorise extrêmement O.J. Simpson, ce qui du coup lui a permis d'échapper en fait à la peine qu'il aurait dû dont il aurait dû écoper. Et en fait, dans ce documentaire, j'ai trouvé Nicole assez absente. Enfin, c'était pas non plus outrageant. Elle était quand même là. Ça restait correct. Mais j'ai trouvé que, je sais pas, il y avait quelque chose que j'avais pas entendu sur elle. C'était vraiment très, très centré sur la figure de O.J. Et du coup, ça m'a frustrée. Et donc, en regardant le documentaire, je me suis mis à faire plein de recherches sur Nicole et donc à imaginer cette scène-là de boucle, qui est du coup, par contre, jouée par donc Sarah Christian et Emmanuel de Montsant, qui est un acteur qui avait déjà travaillé avec nous sur un spectacle précédent.
Je vais vous demander de me rappeler vos noms, prénoms, âge et profession, s'il vous plaît.
Brown Simpson, Nicole, 24 ans, serveuse.
Simpson, comme dans O.J. Simpson. La chance.
C'est mon mari.
C'est votre mari?
Je vous l'ai déjà dit dans ma dernière déposition. Je suis la femme d'O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson.
Ah oui, en effet. C'est effectivement écrit sur la déposition que j'ai là, ici, sous les yeux. Brown Simpson, Nicole, 24 ans, serveuse, épouse O.J. Simpson. Alors, Madame Simpson, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Novembre 1967. USC versus UCLA. Ce run de 64 yards. J'étais, vous savez, dans les tribunes. Je gueulais « Go, Trojans !» Un run historique. Probablement l'un des plus grands moments de l'histoire du football américain universitaire. Tu joues au foot, Nicole ? Moi, j'étais dans l'escouade défensive. Plus précisément, nose tackle. Casseur de nez. C'était ma position. Je peux vous dire que j'en ai cassé. Enfin bref, tout ça, c'est l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché un ballon. Je ne pensais pas penser à ça comme ça aujourd'hui. Ce sont de beaux souvenirs de l'Amérique.
Est-ce que je peux déposer ma plainte ? C'est juste que la nourrice va bientôt partir de la villa. Je ne voudrais pas qu'elle s'y reste de tout ça.
Bien sûr, Madame Simpson, allez-y. Je vous écoute. Allô ? Ah ! C'est toi, Jack. Ouais, j'étais en train de finir. Ouais, m'en parle pas. Non. Bien sûr que je passerai, je manquerai pas ça. Pas de problème. Non. Non, c'est réglé, je te dis. Et bien sûr, Jack, pour un vieux pote. Allez. Ouais. Bonjour à ta femme également. Excusez-moi. Je vais vous demander de me rappeler vos noms, prénoms, âge et profession, s'il vous plaît.
Brown Simpson. Nicole. 24 ans, serveuse.
Simpson. Comme dans Moji Simpson.
C'est mon mari.
C'est pas ton mari.
Je vous l'ai déjà dit dans ma dernière déposition, je suis la femme d'O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson.
Ah oui, en effet. Effectivement, c'est écrit sur la déposition que j'ai là, ici, sous les yeux. Alors, Madame Simpson, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Autre chose également qui est un peu perturbant, c'est le peep show. Et là, je me retourne vers donc du coup Sarah et Quentin. Perturbant dans le sens où on ne s'attend pas du tout à ce qui se passe. Et apparemment, si on veut écouter la suite des histoires qui sont racontées, il faut payer, tout simplement. Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu le concept.
Alors, en fait, on essaye de... Enfin, ça reproduit un peu les codes du peep show, quoi, des personnes qui viennent voir une femme se dénuder... dans un peep show, quoi. Et donc là, le spectateur se retrouve un peu à la place de ces personnes. La différence que là, il faut payer pour entendre un texte, quoi, finalement. Plus qu'une fille qui se dénude. Mais ça, on garde ce côté un peu glauque et malsain dans le fait de mettre de l'argent dans la boîte. Parce que sinon, il se passe rien, quoi. Et voilà.
D'abord, l'installation, l'idée, c'était de... Bon, du coup, elle est vraiment née d'une image pour moi. C'est vraiment cette cabine avec cette femme qui danse dans cette cabine et qui, du coup, devient à la fois est cette femme et toutes les femmes. Et vraiment plein de femmes différentes. Et on ne sait pas si c'est une même femme qui, en fait, réalise les fantasmes différents d'hommes qui lui demandent, par exemple, de jouer la prostituée polonaise ou de jouer la fille un peu stupide qui fait des gâteaux ou je ne sais quoi, qui sont, du coup, des différents personnages qui sont dans les textes. Ou alors, si c'est justement plein de visions différentes, de représentations habituelles et clichés aussi parfois qu'on a justement d'une femme et dont justement les textes jouent et par cette mise en situation dans ce cadre-là. Et en fait l'idée c'est, enfin je suis partie d'un truc assez, une anecdote de vie qui est qu'on avait parlé justement de situations où des hommes payent des femmes juste pour parler, c'est-à-dire que du coup ils vont pas ils vont pas coucher avec. Mais c'est des hommes qui sont seuls, qui se sentent seuls et qui ont envie de parler avec une femme qui sera pas quelqu'un de leur entourage. Et du coup, je suis partie un peu de cette idée-là pour construire ça. Alors du coup, juste pour parler est devenu juste pour raconter une histoire. Et là, ça interroge le fait de justement non plus payer pour voir quelque chose d'érotique, mais bon, du coup, le cadre l'est, mais payer pour entendre la suite d'une histoire avec un jeu sur les coupures, le suspense et tout ça. Et du coup, là où justement cette installation, c'est Quentin et Sarah vraiment... C'est que moi j'ai fait un petit dessin très moche de cabine sur un coin de papier parce que je ne sais absolument pas concevoir quoi que ce soit. Et Quentin a imaginé, conçu, dessiné, construit la cabine. Voilà, y compris le système de lumière, enfin tout, quoi, toute la cabine. Donc il a fait exister. Et Sarah, du coup, a absorbé, ingurgité et travaillé tous ces personnages de femmes. Voilà, et avec un corps différent pour chacune, une interprétation différente pour chacune. Et voilà, pour faire vivre vraiment ces 8 personnages-là, quoi. Donc voilà.
Mais c'est une sacrée performance quand même, parce que s'il n'y a personne, justement, si personne met de l'argent, qu'est-ce qui se passe ? Ça tourne en boucle ou vous arrêtez ?
Dans cette idée de témoin, il y a à la fois l'idée que quelqu'un est là pour écouter, mais qu'en fait, il y a aussi peut-être tout le temps quelqu'un qui parle, qui ait une oreille ou pas, en fait. Et c'est vrai que dans ce dispositif, il y a aussi une petite chose qui est arrivée finalement assez tard. C'est aussi que, moi, en l'occurrence, là, dans la cabine, je parle à une chaise située juste devant moi. Et derrière cette chaise, il y a encore 2 rangées de spectateurs. Et donc, cette chaise peut être vide ou pleine. Si elle est occupée, si quelqu'un s'assoit à cette place, je vais lui parler directement. Mais sinon, je vais m'adresser à la chaise vide. Et si la personne est là, les spectateurs voient la personne qui me voit. Et donc, le témoignage et la question du témoin est dédoublée, encore une fois, quoi. Donc voilà, ça digresse un peu de cette question de qui parle, qui écoute, mais on est...
Du coup, pour répondre concrètement, Sarah reste complètement immobile. Elle peut rester immobile pendant très longtemps. C'était ça, parce que du coup, la question, c'était que s'il n'y a personne qui met des sous, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, je voulais répondre pour dire qu'en fait, Sarah, qui par ailleurs fait aussi, je peux le dire, du modèle vivant, du coup, a beaucoup travaillé pour une discipline corporelle pour rester immobile pendant longtemps. Alors ça, c'est pas moi qui lui ai demandé, hein, mais du coup, je profite de ça pour aussi cette installation-là où en fait, s'il y a personne qui met une pièce, l'installation, elle s'arrête. Enfin, elle ne continue pas tant que quelqu'un met pas une pièce, quoi. Pour moi, c'est mon côté. Là, pour le coup, il y a un peu de tyrannie, j'avoue.
Oui, en même temps, c'est la question de la performance et tous ces textes-là, et tous ces corps et toute cette, tout ce travail-là, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble et à partir des textes qui sont écrits par Pauline, qui donnent chacun un espace de jeu différent pour des interprétations différentes, des corps différents et voilà, donc c'est vraiment un travail complètement en commun, plus que commun. Voilà.
Mais du coup, je m'adresse à Quentin cette fois-ci parce que lui qui est aux manettes pour mettre la musique répétitive évidemment, qui fait très pipe-show, hein, entre guillemets, il y a des codes entre vous, il y a des codes lumière, il y a des codes où lumière dans le sens où à un moment donné, même si elle continue de parler, pouf, elle s'arrête et elle se met à danser ou à bouger de manière un petit peu robotique. On y reviendra après d'ailleurs parce que j'ai une autre question derrière. Comment ça marche entre vous ? Comment vous avez travaillé tout ça, justement, cette interaction entre le fait, est-ce que tout est postulé dans les textes en disant, stop à tel moment, ou c'est au feeling ?
Alors c'est un peu des deux, il y a du feeling pour les moments de transition où Sarah passe d'un personnage à un autre, donc moi je la regarde beaucoup et j'attends un changement de posture pour envoyer une lumière qui annonce un nouveau texte. Et après dans les coupes qu'on fait... qui incite les gens à mettre de l'argent, c'est très précis dans le texte, c'est une sorte de cliffhanger, un endroit où en fait on attend une suite. Sarah, enfin pour être plus clair, Sarah va être en train de parler et je vais couper la lumière à un endroit où on a envie de savoir ce qui se passe ensuite, quoi. Ça n'a pas de sens de ne pas mettre d'argent pour ne pas entendre la suite.
Ouais. Et puis la performance, elle réside aussi dans le sens où, en tant que spectateur, j'ai assisté donc à cette séance et je me suis aperçu que ça me faisait penser énormément à une série suédoise qui s'appelle Real Human, où il y a un côté robotique.
Alors, il n'y a pas de rapport délibéré avec Real Humans, mais je suis contente, c'est toujours chouette d'être assimilée à une super série. Donc voilà, mais par contre, il y a effectivement une dame qui s'est mise à parler à Quentin à un moment donné où Sarah dansait et en fait finalement à un moment donné a réalisé que Sarah était une vraie personne. Enfin, elle a dit je pensais que c'était un mannequin, j'ai cru que c'était pas une vraie personne. Voilà, donc du coup ce que vous dites est assez juste au final. Moi j'avais pas du tout aperçu ça quand on travaillait. J'ai l'impression au contraire quelque chose de très organique, mais ça peut aussi être ça. Enfin, c'est aussi les mouvements. Voilà, la danse peut faire ça, quoi. C'est clair. Le corps fait ça, quoi. Ouais.
Quand on assiste évidemment à cette séance, on voit la vitrine, on voit Sarah dedans. On se dit bon, c'est perturbant. Alors, je sais pas si les hommes et les femmes le voient de la même manière, mais à un moment donné, évidemment, on sort complètement du contexte du visuel pour s'intéresser vraiment au texte qui est dit, et c'est là où c'est perverse, finalement, parce que ben, on attend la suite, et s'il n'y a personne, ou si personne met d'argent, ben, on n'a pas la suite, et j'ai l'impression qu'à un moment donné, tout le public se regarde pour dire, mais qui est-ce qui va mettre de l'argent pour... Comment vous faites pour rester imperturbable, justement, parce que je vous ai constaté que vous étiez imperturbable. Il y a un travail quand même, c'est une performance pour moi qui est assez gigantesque.
Ben, je crois que c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, et puis beaucoup de travail et une très grande conscience du sens qu'il y a derrière et du sens qu'il y a à respecter ce protocole-là. Le plus strictement et exactement possible, parce que c'est comme ça que ça marche, et c'est aussi justement nourri par toutes les discussions qu'on a eues ensemble, tout le travail qui est fait en amont, qui fait qu'à un moment on sait pourquoi on fait les choses, et que là c'est le moment d'être imperturbable, et donc on l'est tous ensemble, quoi. Voilà.
J'ai senti que je saignais du nez depuis un moment.
Il y a d'autres installations, on est devant l'une d'elles d'ailleurs, où il y a des petits mots qui ont été jetés un petit peu partout. Là malheureusement j'ai pas eu l'occasion de voir un petit peu ce qui s'est dit dans ces mots. Qui est-ce qui peut m'expliquer un petit peu le concept de ça ?
Malheureusement je peux pas vous dire ce que c'est écrit dans ces mots, parce que nous on ne sait pas.
D'accord.
Comme l'installation de la cuisine, c'est aussi une installation improvisée. En fait on demande au public qui vient vers nous d'écrire dans un bout de papier une histoire, un passage de leur vie, quelque chose qui s'est passé dans leur vie, de plier le papier, de le jeter ici. Et avec Sarah, on se met devant, un devant l'autre, on se regarde et on tire au sort un bout de papier. La personne qui a tiré le papier, elle regarde ce qui s'est écrit et on raconte une histoire. Du coup, l'histoire qui est sur le papier, mais c'est l'histoire que nous, on crée. Et en fait, c'est un peu un ping-pong. Je raconte l'histoire de ma façon, elle raconte de sa façon, je raconte ce qu'elle m'a raconté de ma façon, jusqu'à ce qu'il ne me concerne plus. Que c'est le nom du coup de l'installation. Comme la parole, elle se perd au fil du temps, au fil de bouche à oreille, comment ça peut passer d'une personne à l'autre, comment une personne elle peut interpréter ce qu'elle vient d'entendre. Donc voilà, cette installation, elle montre vraiment l'histoire, jusqu'où cette histoire, elle peut faire partie de ma vie, de votre vie, de nos vies au quotidien.
Et puis on a une dernière qui est derrière nous, avec un casque, quelque chose à écouter et un livre.
Du coup, c'est le moment pour moi de faire intervenir l'homme absent de ce projet quand même, qui est Raphaël Jam, qui est le créateur son et le voilà de ce projet, qui travaille avec nous depuis 2013 aussi. Mais comme on coûte très cher déjà au festival puisqu'on vient de Lyon, voilà, on n'a pas non plus voulu faire les grands seigneurs et venir tous ensemble. Donc Raphaël n'est pas avec nous et donc Quentin, c'est pour ça que Quentin fait une double régie et une double installation. Mais donc cette installation là, tout comme les téléphones qui a majoritairement été fait, enfin vraiment orchestré par Raphaël au niveau technique, c'est une installation qui s'appelle La personne que vous essayez de joindre. Et en fait, c'est une installation, donc pour la décrire très concrètement, c'est un cahier dans lequel les gens écrivent des souhaits. Donc c'est vraiment une installation participative. Et l'idée, c'est que donc ils vont pas simplement écrire des souhaits sur un cahier, ils vont d'abord mettre un casque audio, et ils vont faire un choix entre deux petits boutons, un qui dit j'y crois encore, l'autre qui dit je n'y crois plus. Et ils vont mettre play, ils vont mettre le casque, il va y avoir une musique qui va se lancer, et ils vont avec cette musique qui colore en fait leur lecture du cahier, ils vont lire tous les petits mots que les gens ont mis. Donc ça peut passer du j'aimerais rentrer dans mon bikini en taille 36, c'est véridique, à j'aimerais que les gens arrêtent de tuer des gens au nom de Dieu, aussi véridique. Donc ça passe vraiment par des extrêmes, quoi. Et du coup, ils peuvent aussi écrire leurs souhaits, évidemment, dans le cahier. Donc c'est ça, quoi. On interroge, enfin, par cette installation, on interroge vraiment le sacré, le divin, le je ne sais quoi, sachant que qu'il y a un petit cartel qui présente chaque installation, qui donne un petit peu une mise en lumière. Il y a écrit quelque chose comme la chance, la providence, le président, la française des jeux, Dieu, Allah, Bouddha, je ne sais pas. Enfin voilà, donc tout ce à quoi on s'adresse pour essayer que les choses fonctionnent bien, quoi.
Mais du coup, vous vous en servez après de ce livre? Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces notes?
Et alors c'est là que cette installation est comment dire, elle peut peut-être avoir sa limite par rapport à ça, parce qu'en fait non, on s'en sert pas. Moi je pense qu'en fait c'est la lecture de toute cette multiplicité de souhaits un petit peu qui pour moi crée cette émotion particulière et l'envie de s'ajouter un peu à cette communauté de gens qui souhaitent. Mais c'est vrai que ça va pas au-delà de ça, en fait ça reste ça. L'installation, c'est ça, parce qu'en fait ça vient, pour vous dire vraiment le début de l'installation, de ma fréquentation des églises. Je ne suis pas catholique, mais ce que j'aime beaucoup dans les églises, c'est les cahiers d'intention de prière. Et du coup je trouve ça vraiment très beau, sachant que ce qui me plaît là-dedans, c'est le côté hétéroclite de gens qui laissent des trucs du genre très belle église, nous reviendrons, c'était super, à trouvez-moi un travail s'il vous plaît, à je sais pas, on avait vu Jésus, tu n'aimes pas les Togolais car tu nous as donné un président togolais horrible. Et donc on a, en fait avec Sarah, on est allé photographier des centaines, peut-être une centaine, des dizaines, une centaine de pages de ces livres d'intention de prière dans des églises à Lyon, et moi en Bretagne aussi en vacances, et toi en Allemagne aussi. Ouais, on a fait une collecte de mots comme ça, et on a beaucoup lu ces messages et on s'est demandé mais à qui ces gens s'adressent. Et surtout ce qui est fou, c'est qu'ils livrent complètement leur intimité à côté d'autres gens, en fait, qui écrivent des souhaits tout aussi personnels et intimes. Et je trouvais ça vraiment complètement unique, en fait, comme manière de livrer son intimité comme ça à tous les vents, à Dieu ou à je ne sais pas quoi. Et du coup, voilà, c'est ce truc-là, j'ai voulu en faire quelque chose, mais ça reste assez sommaire, j'avais envie de faire ça.
Pour terminer, c'est un peu une première à Arras, donc pour ces installations témoins, j'aimerais avoir votre avis à chacun de vous, pour savoir ce que vous avez pensé justement de cette première journée.
C'était vraiment extrêmement riche, déjà on est accueillis comme des coqs en pâte, comme des pachas à Arras, c'est vraiment un accueil rare et très très beau. Donc ça rend tout de suite l'expérience super chouette, et c'était très riche aujourd'hui aussi parce que le spectateur, lui, à travers toutes ces installations, tous les spectateurs vivent des expériences différentes, ils arrivent à certains moments, ils vivent des choses différentes, et pour nous c'est pareil en fait, parce qu'on a à chaque fois des personnes différentes en face de nous, on peut répéter plein de fois la même chose et ça se passe jamais de la même façon, et voilà, donc là en impression à chaud, c'est très très beau et une vraie joie d'avoir fait cette première ici.
Alors moi j'avais beaucoup d'inquiétudes avant de venir ici, tout d'abord par rapport à la cabine à transporter, parce que c'est un objet super fragile, le moindre impact sur le miroir ça explose tout, donc ça c'était un peu mon stress du voyage. Donc là je suis super rassuré que ce soit en place, que ça fonctionne, et surtout que voilà, toutes nos installations fonctionnent et que les gens les comprennent et participe à fond, quoi. Ça fait plaisir.
Bon, moi, je suis aussi également ravie. Je suis toujours émerveillée de l'accueil des gens d'Arsène, d'Arras, voilà, les gens du service culturel de l'université. Mais bon, voilà, je crois à chaque fois que je nage dans un rêve quand je viens là. Et justement, j'ai vraiment énormément parlé d'Arsène et d'Arras à mes camarades, en fait, de l'écrou pendant toute l'année. Donc ça y est, nous y sommes. Et du coup, par contre, pour nuancer, en tant que metteuse en scène vraiment, c'est un peu particulier pour moi parce que je n'ai pas de vision globale, contrairement à d'habitude. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne vois pas ce qui se passe, je fais confiance absolument à ce qui se passe, mais je ne vois rien, donc ça passe par des petits trucs furtifs, ça va, quand on se croise entre différentes installations, mais j'ai pas de vision globale. Et pareil, on n'a pas non plus de retour du public, au sens où on n'a pas d'applaudimètre, par exemple. Et alors ça, bien sûr qu'on fait pas ça pour quelque chose de narcissique et d'avoir 3, 4, 5 rappels, j'en sais rien, mais on n'a pas non plus vraiment de retour direct. Donc les gens qui voudront nous faire des retours, c'est les gens, bon déjà les comédiens le sentent, donc moi je le sens un peu moins, forcément en n'étant pas comédienne, mais par contre ce sont des gens qui voudront ensuite nous parler ou quoi, etc., et sachant qu'on est complètement disponible ensuite à discuter, mais on n'a pas la même sensation que pour un spectacle. Mais après, c'est autre chose, et c'est aussi ce que j'ai souhaité, donc c'est parfait, j'assume, et c'est très très bien aussi, quoi.
Pour moi, je peux être peut-être répétitif, mais c'était une vraie révélation heureuse, cette première et cette deuxième ici à Arras, ces premiers jours, parce que c'est un plaisir énorme de pouvoir voir ces spectacles, ces parcours d'installation marcher ensemble au même temps. De voir toutes les installations bien en place, en train de marcher bien, avec du public qui répond, qui participe. Et nous, on est là pour écouter, pour répondre, pour proposer, pour vivre ça. Et c'est vraiment une belle vie. Ces 4 jours à Arras, je pense que c'est une belle vie. Pour moi, c'est un retour au Festival de théâtre, ça fait longtemps. Et ça m'a fait énormément plaisir et chaud au cœur surtout. Et merci vraiment à toute organisation, merci à vous aussi d'être là.
Merci aussi parce que des interviews aussi longues, où on a la possibilité de vraiment rentrer dans des détails et d'expliquer des choses et de vraiment juste discuter, en fait, c'est quand même assez précieux. Merci.
Le dispositif témoin sous forme d'installation interactive était proposé dans le cadre de la 21e édition du festival universitaire Arsène à l'hôtel de Guindarras par l'ensemble lyonnais L'Écrou.